Panorama Économie.
Bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à l'écoute de ce programme sur Radio Okapi. Au sommaire de Panorama Économique cette semaine, qu'adviendra-t-il aux commerçants qui n'auront pas obtenu le registre de commerce de crédit immobilier en lieu et place du nouveau registre de commerce après le 11 septembre prochain? En tout cas, nous nous posons cette question et nous nous la poserons encore. Le délai de 2 ans accordé aux détenteurs de ce document expire, mais tout le monde ne semble pas avoir la bonne information. Nous irons ensuite nous balader dans la ferme moderne Kitoko Food au village Massaba, dans la commune de Lancelé. Kitoko Food, c'est un projet agroalimentaire qui produit pour l'instant 2 tonnes de légumes par jour. Mais avant cela, nous allons parler de la lutte contre la corruption dans la passation des marchés publics, thème retenu pour un séminaire à l'intention des agents de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, l'OCEP, et pour le directeur général de cet organe étatique. L'objectif poursuivi était d'outiller ces agents des notions qui leur permettraient d'améliorer la qualité de travail. Voilà pour le titre. Et pour commenter, discuter et analyser toute cette actualité de la semaine, nous recevons dans ce studio Olivier Magbeta. Il est consultant à l'OCEP et c'est avec lui que nous allons commenter l'actualité de la semaine. Monsieur Olivier, bonjour et bienvenue dans nos studios.
Merci, bonjour messieurs.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine, les détenteurs du nouveau registre de commerce doivent obtenir le registre de commerce et de crédit immobilier avant ou au plus tard le 11 septembre à minuit.
Le délai leur accordé pour obtenir le registre de commerce et de crédit immobilier OADA tend à se terminer et beaucoup n'ont pas l'information. Quelles pourraient être les conséquences pour ceux qui n'auront pas eu ces documents avant l'expiration du délai? Suivez plutôt Maître Ruffin Louko, l'un des juristes congolais qui ont travaillé sur ces actes uniformes de l'OADA en RDC.
Les conséquences sont désastreuses en ce qui concerne toutes les entreprises commerciales, toutes. Parce que si à cette date-là, vous n'avez pas renouvelé, parce qu'il y a une sorte de renouvellement en vertu du principe de la continuité de l'État. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des lois nouvelles, ça prouve les sociétés ou organisations existantes dans leur situation initiale parce qu'elles ont été créées selon la loi ancienne. En l'occurrence ici, nos sociétés ont été créées selon nos lois sur les sociétés commerciales. Maintenant qu'il y a une nouvelle loi, c'est-à-dire les actes uniformes de l'OADA, le traité que nous avons déjà ratifié, toutes les entreprises doivent se conformer notamment à se trouvant dans ces délais ici. Conséquence dramatique est celle-ci. Si à cette date-là, vous n'avez pas renouvelé, c'est que vous perdez la qualité de société commerciale et vous devez désormais vous constituer de nouveau selon les conditions de l'OADA. Donc vous perdez la qualité de commerçante et si par exemple vous avez des actions en cours ou des négociations en cours, vous n'êtes plus commerçante jusqu'à parce que vous allez reprendre à zéro toutes les conditions et avoir, n'est-ce pas, à remplir tous les documents.
Vous avez parlé de toutes les entreprises commerciales, maître, mais nous avions entendu une certaine opinion dire que dans un premier temps, ne seront concernées que les grandes entreprises. Et là, vous avez parlé de toutes les entreprises commerciales. Qu'en est-il?
C'est toutes les entreprises qui ont un registre de commerce, donc qui ont la qualité de commerçante par le registre de commerce et la nouvelle immatriculation. C'est toutes ces sociétés-là qui sont soumises, n'est-ce pas, à la condition de la remise à niveau.
Les Congolais sont souvent habitués à jouer aux prolongations. Je pense peut-être qu'ils vont chercher à se bousculer à la dernière minute pour avoir ces documents et espèrent à une certaine prolongation. Est-ce que ce sera possible avec cette loi OADA?
Oui. Avec l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, les regroupements des grandes entreprises, évidemment, il n'y a pas de prolongation. Il n'y en a pas. Hélas, la nation n'a pas été préparée. Donc, parce qu'à l'époque, lorsque nous avons négocié tous ces traités-là, tous ces actes uniformes avec le ministre Lizol à l'époque, on avait voulu d'abord conformer tous les membres de la FEC, de la NEP et de la COPENECO. Donc, que tous ces opérateurs-là du monde et du commerce soient préparés par des séminaires, par... Donc, il y a un festival de formation, de séminaires, de colloques, et ensuite, alors, après avoir préparé tous ces cadres-là, ratifiés, tout ça, ça n'a pas été fait avant, et aujourd'hui, il se fait que beaucoup de commerçants, beaucoup de sociétés commerciales, leurs membres n'ont pas été formés. Ce qui fait que, maintenant, c'est soit une seule personne dans l'entreprise qui a une quelconque connaissance sur les actes uniformes ou les traités OADA, alors ça fait que l'urgence est telle qu'elle s'impose. les membres des entreprises commerciales ne les perçoivent pas à juste titre. Et ils vont tomber donc dans ces faux clos-là par défaut de connaissance.
Maître Ruffin Louko, c'est un juriste, un homme de droit qui a travaillé également sur les traités uniformes, les actes uniformes de l'OADA en RDC. Et dans ce studio, je vous le disais, nous recevons Olivier Magbeta. Olivier, vous êtes consultant à l'OCEP. Je ne sais pas si je vous présente bien.
C'est ça et c'est aussi pas ça. C'est ça parce que je suis consultant à l'OCEP chargé des marchés publics. Mm-hmm. Mais à part cela, dans la vie pratique, nous sommes experts en passation de marchés publics.
Justement, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce délai accordé? Un délai de 2 ans accordé aux commerçants congolais qui ont les nouveaux registres de commerce, de les convertir en RCCM que l'OADA, avec l'adhésion de la RDC à l'OADA. Et de façon générale, on est en train de constater à travers la République, selon les rapports que nous avons, que ce n'est pas tout le monde qui a l'information. Et les conséquences risquent d'être fâcheuses, comme vous avez entendu dans cette interview que nous avons eue avec Maître Louko. Votre lecture.
Oui, pour paraphraser Maître par rapport à ce qui a été dit, il faut dire que l'acte ou le traité de l'OADA sur le plan de droit international, c'est un traité, ce qui fait que par rapport à la hiérarchisation, donc le droit interne devra fléchir devant ce traité qui est du droit international. Alors, malheureusement ou fort malheureusement pour la nation congolaise, parce que les commerçants n'ont pas été préparés, il en est ainsi des corporations qui organisent les commerçants, les entreprises du portefeuille. C'est ainsi que mon prédécesseur a dit, il y a la FEC, il y a la NEP, il y a le COPEMECO, il y a le FOLECO, il y a tous ces partenaires-là qui n'ont pas été préparés. Et la conséquence, c'est que quand on n'est pas préparé à quelque chose, quand on n'a pas vulgarisé suffisamment, alors les gens ne comprennent pas le bien fondé. Aujourd'hui, nous nous approchons lentement, sûrement, vers cette date, qui est une date butoir. Donc, ils ne pourront que s'en prendre à eux. Mais il faut dire que ceux qui ont négocié n'ont pas été prévoyants pour qu'un travail de terrain, un travail de préparation se fasse.
Mais voilà. 2 années, c'était quand même beaucoup comme délai.
Non, c'est pas beaucoup parce que, voyez-vous, le Congo, c'est un continent pratiquement. Quand vous devrez compter les opérateurs économiques, quand vous devrez compter les problèmes qui sont les nôtres par rapport à nos administrations en ce qui concerne la délivrance de certains documents, donc il fallait un temps nécessaire à préparer, voyez-vous, à préparer, à vulgariser cet acte. Et vraiment, comme le monsieur l'a dit, donc un festival de formation où il fallait former. Parce que, regardez, l'OADA n'a pas seulement le corps de règles, mais il a même un système comptable, voyez-vous.
Maître, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, il nous reste encore quelques jours. S'il vous arrive, par exemple, de vous mettre à la place de ceux qui devraient sensibiliser, lancer un message à l'endroit des commerçants, tous ceux qui ont les nouveaux registres de commerce. De toutes les façons, ce document ne s'achète pas, il est gratuit. Vous présentez votre NRC, on vous remet le RCCM.
Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait...
Il y a encore un peu de jours.
Il y a quelques jours, mais c'est combien de jours? Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a un guichet unique de création d'entreprise en République démocratique du Congo.
Pour l'instant, basé seulement à Kinshasa.
Seulement à Kinshasa, donc voyez-vous.
Mais il y a des tribunaux de commerce aussi, bon, qui ne sont pas présents dans toutes les provinces.
Voilà, ça c'est un fait que vous soulevez. Donc il y a le guichet unique de création d'entreprise qui est animé par des fonctionnaires de l'État qui, vous connaissez combien, quelles sont les conditions dans lesquelles ils travaillent. Je veux croire que ce nouveau service travaille quand même dans des conditions acceptables, mais fort de l'engouement de ces commerçants qui s'emmèneront un à un ou en masse, il sera difficile de pouvoir délivrer en temps utile. Donc il y aura de ceux qui seront contents et des mécontents, en tout cas, il faudrait y penser.
Nous vous gardons, Monsieur Olivier, le temps de prendre ce deuxième dossier de la semaine, dossier consacré à la lutte contre la corruption dans les marchés publics. C'est le thème du séminaire à l'intention des agents de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, l'OCEP, un séminaire que Nadine Foula a suivi pour nous cette semaine. Et nous avons l'honneur de recevoir dans ce studio un partenaire, le consultant à cet organe de l'État, pour en parler. Et nous rappelons que pour le directeur général de cet office, il était question de doter les participants d'outils nécessaires pour lutter efficacement contre la corruption. Monsieur Olivier, vous êtes expert en passation de marché. Comment lutter alors contre la corruption dans ce domaine, on sait?
Oui, d'emblée, nous pouvons dire, pour lutter efficacement, en ce qui concerne la corruption dans les secteurs des marchés publics, la RDC devrait se doter d'une charte de transparence en ce qui concerne les marchés publics. Il faut dire, messieurs, il y a certains indicateurs...
C'est que c'est un document à élaborer.
Oui, c'est un document à élaborer que la RDC n'a pas encore.
Et vous l'aviez proposé lors de ce séminaire.
En tout cas, c'est l'une des recommandations que nous avions soulevées dans l'espoir que notre voix serait entendue par les autorités du pays pour que la RDC soit dotée de cet outil très important.
Que comprendre par cette démarche que vous menez, la lutte contre la corruption dans les passations de marché? C'est quoi la passation de marché public?
Oui, merci messieurs pour cette question. Nous voulons dire que la finalité que nous menons par cette série d'ateliers que nous lançons ici et ailleurs, c'est de bien vulgariser la loi 10.010 du 27 avril 2010 sur les marchés publics, qui a été promulguée, comme vous l'entendez, qu'en 2010, nous sommes en 2014, fort est de constater que beaucoup de gens ne connaissent pas cette loi et il faudrait se joindre aux efforts du gouvernement de la République pour vulgariser cette loi afin d'outiller les agents et du secteur public et du secteur privé de manière à ce qu'ils connaissent la nouvelle loi. Parce qu'une loi, messieurs, dès lors que vous l'appliquez, vous vous rendrez compte des failles et des insuffisances et cela permettra à l'autorité d'améliorer et de perfectionner la loi et ce qui aurait comme conséquence ou impact direct d'assainir aussi le climat des affaires en République démocratique du Congo.
Est-ce que la passation de marché public a des règles à suivre, des principes, des piliers sur lesquels il est assis?
Oui, la passation de marché, elle est contraignante, messieurs. Voilà pourquoi elle est codifiée sous un corps des règles. La passation de marché, dans sa nouvelle, la configuration actuelle, elle est assise sur des principes qu'il faudrait que nous puissions dire. Le premier principe, c'est le principe de la libre concurrence. Il y a la transparence, il y a l'économie budgétaire et il y a efficacité des procédures.
Ce sont là les quatre piliers qui régissent la passation de marché public.
Oui.
En dehors de ça, si ces principes ne sont pas respectés, là, on entre dans ce que vous appelez la corruption.
La corruption, non seulement la corruption, mais le gaspillage ou une gabésie financière. Parce que là, il s'agit de dilapider les moyens de l'État à des fins qui ne sont pas appropriées.
Et c'est la démarche que vous menez.
C'est cette lutte. Nous avons un bureau d'études à ce jour qui vient en appui technique aux opérateurs publics tout comme privés pour d'une part vulgariser les marchés publics mais d'autre part aussi appuyer techniquement tous ces opérateurs qui ne s'y connaissent pas par rapport à la législation actuelle.
En outre,
il faut dire qu'il y a certains indicateurs à partir desquels on peut s'assurer de l'intégration de la bonne gouvernance dans les marchés publics.
Et c'est avec ces outils-là qu'on pourra efficacement lutter contre la corruption dans la passation des marchés.
Bon, il faut aussi dire que cette lutte, elle devra se faire à plusieurs niveaux, en amont tout comme en aval. Voyez-vous, en amont, il y a des pratiques préventives qu'il faudrait prendre pour lutter efficacement contre la corruption. Et en aval, il y a des incidents, des pratiques incitatives. Par exemple, la dénonciation. Dès lors que vous voyez quelqu'un qui sombre dans la corruption, vous pouvez dénoncer. Malheureusement, nous vivons dans une société où, dès lors que vous voulez dénoncer, vous êtes regardé avec dédain. Voyez-vous? Donc c'est une habitude, c'est une
Mais
valeur.
Mais est-ce qu'il faut continuer à vivre comme ça? Il faut changer un peu d'habitude aussi.
Messieurs, laissez-moi vous dire que la corruption, c'est une gangrène qui touche non seulement la RDC. Je puis vous étonner que par rapport aux dernières statistiques que nous avons eues de l'OCDE, on dit par exemple que la France est 25e, on vous dit la Belgique est peut-être 27e. Donc ça veut dire que ce sont des problèmes qui existent aussi sous d'autres cieux.
Je voulais savoir, est-ce que la punition, les sanctions sont aussi un moyen, constituent aussi un moyen pour lutter contre la corruption? Par exemple, quelqu'un qui est pris les mains dans le sac, le sanctionner pourrait aussi prévenir contre la corruption pour les cas futurs?
Oui, mais pas dans tous les cas, pas dans tous les cas, parce que je crois que lorsque l'on sanctionne, la sanction, à part l'aspect coercitif, elle a aussi une dimension pédagogique, c'est de recadrer, de réinsérer. Voyez-vous pourquoi, dès lors que vous commettrez un meurtre, on ne vous tue pas parce qu'on croit encore que l'on peut vous rééduquer. Donc si nous croyons que la sanction, c'est le seul outil pour lutter contre la corruption...
On prend le troisième dossier de la semaine et je pense que c'est un autre sujet qui va certainement vous donner aussi, vous mettre de la parole dans la bouche. Ce sujet, c'est celui de la gouvernance dans le secteur minier de la RDC et la croissance économique inclusive qui a été au centre de la 5e édition du colloque du secteur minier ouvert depuis mercredi à la foire internationale de Kinshasa et cela pour 4 jours, Nadine.
Cette tribune est organisée par les ministères des mines et les débats qui s'éclôturent aujourd'hui sont animés par des experts, opérateurs miniers et mandataires publics. Les coordonnateurs de la cellule technique de coordination de projets miniers en RDC a fait savoir, Daniel, que le secteur minier a besoin de plus de moyens financiers et techniques pour quitter l'exploitation artisanale à l'industrielle. Il l'a dit à François Kadima.
Le ministère des Mines, par les canaux de géologues de la CTCPM et du cadastre minier, ont eu l'occasion de choisir 19 blocs pour entamer des recherches approfondies. Mais on attendait toujours les financements de la Banque mondiale. Hier, j'ai été surpris d'apprendre que Diffit, qui avait mis 42 millions dans les projets, a retiré ces 42 millions, mais maintenant nous restons avec la Banque mondiale, ce qui fait que ces projets de recherche au Katanga et dans toutes les provinces est estompé. Mais l'État congolais a mis à notre disposition une somme qui ne représente pas beaucoup, ces 3 millions de dollars, que nous voulons tenter sur le bloc du Katanga à Kamoa pour faire la recherche avec l'Université de Lubumbashi. Et tout cela nous amène à notre volonté à la création d'un service géologique qui est toujours attendu. Et notre fléau qui nous a envahis actuellement, c'est des coopératives qui naissent. Il y a des demandes incessantes de coopératives minières, parfois non contrôlées, qui proviennent généralement des provinces. Et ces coopératives, sans capacité technique ni financière, s'acharnent sur les indices ou des gîtes encore visibles dans des zones de recherche. Et ils envahissent parfois même les périmètres miniers des tiers. Et tout cela, c'est parce que l'État n'a pas pu donner l'emploi à ces populations qui, même celles qui étaient dans l'agriculture, se retrouvent dans l'exploitation minière. Donc, le maintien de toutes ces zones d'exploitation est dû au fait que, réellement, l'État pensait que les sociétaires détentrices des droits miniers devraient entrer en exploitation pour employer la population, mais la plupart des sociétés gèlent, ils restent toujours dans l'exploration. Nous sommes tous d'accord que l'exploitation artisanale ne profitera jamais, jamais à l'État.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine, lundi, nous avons parlé de cette délégation de l'ONG internationale Vision Mondiale qui a séjourné le week-end dernier à Guémena dans le cadre d'une mission d'études de faisabilité pour l'utilisation de l'énergie solaire dans le Nord Équateur. La mission de Vision Mondiale consistait dans cette partie du pays à permettre à la population de bénéficier du courant électrique et de lutter contre la déforestation de l'environnement par l'utilisation du bois de chauffage.
Une réserve potentielle de 3 milliards de barils de pétrole a été trouvée dans l'est de la RDC par une filiale du groupe Fleuret appartenant à l'homme d'affaires israélien Dan Gerter. Selon l'agence France Presse qui a tiré cette information d'un communiqué du groupe Fleuret, cette découverte est le résultat de 2 phases de tests sismiques au niveau de blocs 1 et 2 du lac Albert, lesquels tests ont coûté plus de 20 millions de dollars. Les analystes indiquent que cette réserve pourrait être de même ampleur côté ougandais du lac. À en croire Oil of DRC, une filiale pétrolière des Fleurettes, une production de 50 000 barils par jour augmenterait le PIB de la RDC de 25%. Elle est actuellement en pleine étude de faisabilité et s'est notamment fixée pour prochaine étape des forêts depuis d'exploration.
Lancement officiel mardi à Kisangani en province orientale des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôtel Congo Palace. Le coût des travaux est de plus de 6 millions de dollars américains sur fonds propres de l'IA l'INSS. Ces travaux sont exécutés par la société chinoise Zhengwei Technique Corporation. L'hôtel Palace est un immeuble à 5 étages construit en 1954, compte 60 chambres, 30 studios et 10 appartements. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, en avait présidé la cérémonie. En présence des membres du conseil d'administration et du comité de gestion de l'INSS, parti de Kinshasa pour la circonstance, ainsi que devant les autorités politico-administratives de la province orientale.
Restons toujours dans cette province pour parler du pont Makala situé à 4 km au sud de Bouta, qui s'était effondré partiellement depuis lundi. Selon des sources sur place, l'incident s'est produit au moment du passage d'un camion en provenance d'Akéti. Ces gros camions transportaient des sacs de riz et d'arachide. Pour le moment, les véhicules restaient coincés dans le pont.
Revenons à Kinshasa, où la Banque centrale du Congo veut se doter des outillages et des produits d'entretien informatique. Et pour cela, elle recourt à un prestataire indépendant par appel d'offres nationales. Les candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces outillages et produits d'entretien informatique devront soumettre leurs offres sous pli fermé. La passation du marché se fait bien entendu par un appel d'offres ouvert à tous les candidats éligibles, tel que défini dans la loi relative au marché public. La Banque centrale indique que les candidats intéressés peuvent ou obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'appel d'offres au secrétariat de la sous-direction des approvisionnements, mais doivent avant tout présenter le bordereau des versements obtenus au siège de la Banque centrale après un paiement non remboursable de 460 000 francs congolais au compte courant de la Banque centrale du Congo. Une seule adresse pour déposer les plis, le secrétariat de la sous-direction des approvisionnements. La date limite de dépôt est fixée au 8 septembre à 10h. Le dépouillement se fera le même 8 septembre à 10h30 en présence de représentants des candidats soumissionnaires. Tout soumissionnaire devra garantir son offre avec un montant de 1 500 000 francs congolais sous forme de garantie bancaire et ces fonds devraient demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la limite de la soumission.
Le second semestre 2014 est marqué par une reprise de l'activité économique mondiale en opposition à ce qui était observé au premier semestre. Ces informations sont contenues dans le Perspective économique mondiale publié par les FMI. Mais malgré cette reprise, quelques facteurs de risque tels que les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés persistent et pèsent sur l'environnement économique mondial. Le comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo, qui a examiné mercredi à Kinshasa la conjoncture nationale et internationale, note par ailleurs que l'activité économique congolaise va se maintenir au-delà de 8%. Les CPM fondent ses espoirs, entre autres, sur le prix du cuivre qui est passé de 6 800 $ en juin à 7 100 $ en fin juillet.
Merci Nadine Foula pour cette série d'actualités de la semaine. La suite de Panorama économique, c'est avec le reportage de la semaine et c'est tout de suite.
Panorama économique, reportage.
Le reportage de la semaine nous amène en visite guidée à la ferme Kitoko Food. Cette ferme, utilisant la haute technologie, produit plusieurs variétés de légumes et bientôt des fruits de cette ferme moderne seront sur le marché de Kinshasa. Nadine Foulasimba était parmi les reporters de Radio Okapi qui ont visité ce grand projet agroalimentaire au village Massaba. C'est dans la commune de Lancélé, à 50 km du centre-ville de Kinshasa. Et voici l'éco-reportage de la semaine.
Nous sommes à 54 km de Kinshasa et plus précisément à la ferme Kitoko Food. Gil Albert, l'un des deux associés de cette ferme et son manager nous font découvrir la ferme Kitoko Food. Elle a 600 hectares mais actuellement il n'exploite que 2 hectares. Elle est située dans le village Massaba 1. Avec un fonds d'investissement de plus de 10 millions de dollars américains, cette entreprise privée emploie uniquement la main d'œuvre locale, environ 120 personnes, dont 50 sont des permanents. Eric Pongo, le manager de cette ferme, nous parle de leur production.
Produisons la tomate, la pomme de terre, le chou paumé, le brocoli, l'aubergine, le poivron, les piments, la marante, le fruit. Jusque-là, nous n'avons pas encore commencé l'exploitation, mais nous allons commencer la plantation des fruits de la passion. D'ici là, on est en train de préparer le terrain. Encore à 2 tonnes par jour, 1 tonne par jour, mais je pense que d'ici le mois de septembre, quand cette serre va commencer à produire, on va évoluer.
Deux raisons ont milité dans le choix d'emplacement de cette ferme. Il y a d'abord la proximité avec la rivière de l'Antélé, ce qui leur permet de pratiquer la méthode d'irrigation. Et aussi la proximité au centre-ville. Après une heure de route, ils arrivent au centre-ville pour écouler leurs marchandises dans certains supermarchés et hôtels 5 étoiles. À quelles difficultés sont-ils confrontés ? Encore une fois, retrouvant Eric Pongo.
C'est une ferme high-tech. Et que maintenant, on n'est pas habitué à cette technologie ici. Donc le problème humain, à mon sens, c'est le premier problème de faire confronter des gens. Et nous avons généralement les travailleurs manuels qui ont un niveau d'études d'une manière générale très bas. Vous devez les amener, les sortir de ces niveaux-là, élever leur niveau. Et puis, nous amenons beaucoup de variétés que nous devons adapter. Le travail est très harassant. Dans notre culture, bon, les gens sont habitués à faire le travail. Il fait juste ce qu'il a à faire, c'est fini. Mais ici, on est obligé d'avoir beaucoup de disciplines, suivre les gens, que les gens puissent bien faire leur travail. Ce n'est pas un travail facile.
La République démocratique du Congo importe chaque année pour 1,5 milliard de dollars des denrées alimentaires, alors qu'elle a de fortes potentialités agricoles. Avec la mise en place de plusieurs fermes modernes, la RDC pourra relancer l'agriculture et doper le développement de son pays.
Merci Nadine pour ce reportage qui va certainement boucler notre émission, notre magazine rétrospectif de l'actualité économique de la semaine. Avant de terminer, nous retrouvons notre invité, M. Olivier Magbeta, qui est consultant à l'OCEP. Le projet agricole, ça commence à bouger un peu. On a parlé de Bukangalonzo, on parle de Kitoko Food, et je pense qu'il faut diversifier aujourd'hui l'objet de l'économie congolaise pour lui assurer une bonne croissance.
Oui, monsieur, vous avez raison. Donc, nous voudrons nous saisir de cette opportunité pour remercier les initiatives du gouvernement qui, par ce parc agro-industriel de Bukangalonzo, est en train de faire preuve de beaucoup de courage et de beaucoup de bravoure. Mais cela ne doit pas se limiter seulement au niveau de l'État, mais il faudrait encourager aussi l'initiative locale, les opérateurs privés, tel c'est le cas avec votre reportage. Alors ensuite, il faut aussi dire qu'il faudrait que le gouvernement se batte maintenant à avoir les banques d'investissement, les banques de crédit agricole pour encourager cette initiative. Et de cette manière-là, nous croyons vraiment que le Congo va se mettre à l'orbite d'autres nations qui aussi importent.
Et je pense que c'est par là que nous allons terminer cette émission. Mais ce qui nous a intéressé dans cette émission, c'était plus le séminaire sur la lutte contre la corruption dans les marchés publics. Et si vous pouvez dire un mot pour qu'on termine notre émission par là.
Oui, il était question lors de ces séminaires de nous entretenir, sinon de former les agents de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle sur la lutte contre la corruption dans le secteur des marchés publics. Alors nous avons scindé en trois notre exposé, en commençant à parler des notions éthiques dans une première partie. La deuxième partie a consisté à parler des marchés publics, parce qu'il faut dire que d'ici et là, on entend parler de marché public, passation de marché, il était important de renseigner les participants sur les marchés publics et enfin de faire une intersection entre là où l'éthique se démarque de la passation de marché pour outiller, comme vous l'a transmis son directeur général, outiller l'agent de manière à savoir par où placer un goulot d'étranglement susceptible de arrêter toute corruption dans nos services.
Et vous pensez que la matière est passée?
La matière est passée, mais cela n'est pas tout. L'OCEP ne représente pratiquement rien par rapport à l'échiquier national. Voyez-vous, nous demandons au gouvernement d'encourager les organes qui doivent vulgariser cette loi sur les marchés publics.
Monsieur Olivier, merci. Merci de votre passage au studio de Radio Capi, au studio de Panorama Économique. Nous espérons vous retrouver dans une prochaine occasion pour analyser l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Très chers auditeurs, merci de votre attention. C'en est fini pour Panorama Économique cette semaine. Retrouvez votre émission toute la semaine sur www.radioocapi.net et de lundi déjà, vous avez rendez-vous avec Écho d'économie de lundi à vendredi 18h15 heure de Kinshasa. Au revoir et très bonne fin de semaine à toutes et à tous.